Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le 16e dimanche après la Pentecôte. Mais je voudrais revenir d'abord sur deux fêtes importantes qui ont été célébrés par la Sainte Église au milieu de ce mois de septembre, qui ont été placés côte à côte, c'est pas pour rien. La fête de l'exaltation de la Sainte Croix, le 14 septembre, et la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, le jour suivant, le 15 septembre. Et je voudrais essayer de vous expliquer rapidement pourquoi ces deux fêtes sont ensemble. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était crucifié le Vendredi Saint, il avait dit « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Et comment notre Seigneur Jésus-Christ attire-t-il les âmes vers lui? Il y a deux moyens. On peut expliquer ça comme ça. Il a un moyen qui, naturellement, est un peu rebutant, même très rebutant, à savoir la croix. Évidemment, la foi catholique nous enseigne que cette croix, qui est rebutante sur un plan purement naturel, est l'instrument de notre salut, l'instrument de la réouverture des portes du paradis qui étaient fermées depuis la prévarication d'Adam et Ève. Donc, surnaturellement parlant, nous savons que cette croix est la petite clé qui ouvre la porte du paradis. Mais naturellement parlant, nous ne pouvons nous empêcher d'avoir peur de la croix. Les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix sont tellement épouvantables qu'elles font frémir. Évidemment, encore une fois, la foi catholique, la grâce du bon Dieu nous explique et nous aide à comprendre que ce sont nos péchés qui ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avons malheureusement participé aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ par nos péchés passés, bien il nous faut maintenant justement utiliser cette croix pour payer le prix des péchés passés. La deuxième chose que va utiliser notre Seigneur Jésus-Christ pour nous amener vers lui, pour nous attirer vers lui, c'est sa mère. Il va le dire expressément. En parlant à sa mère et en présentant Saint Jean à sa mère, il va dire « Femme, voici votre fils. » Et à Saint Jean, il va dire « Fils, voici votre mère. » La très sainte Vierge Marie est donc donnée pour que nous puissions approcher de la croix. Si la croix a quelque chose sur un plan naturel d'horriblement rebutant, il n'y a rien de rebutant dans la très sainte Vierge Marie, et sur le plan naturel, et sur le plan surnaturel, dans les deux cas. Notre-Dame est d'une douceur ineffable, bien qu'elle soit en même temps celle qui va écraser la tête du serpent, forte comme une armée rangée en bataille. Alors il nous faut bien comprendre et méditer sur cette proximité de ces deux fêtes. Encore une fois, si ces deux fêtes sont unies, 14 septembre, exaltation de la Sainte Croix, et 15 septembre, fête de Notre-Dame des Sept Douleurs, c'est pas pour rien, encore une fois. C'est pour nous aider à savoir associer les deux choses. Et au cours de cette messe du dimanche, le bon Dieu nous demande donc d'associer à la fois notre dévotion envers la Sainte Croix, qui est l'outil de notre rédemption, et la dévotion envers la très sainte Vierge Marie, qui est en quelque sorte la confiture des croix, comme disait Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. La croix étant tellement rebutante, le bon Dieu va mettre au pied de sa croix la créature la plus douce qu'il ait jamais créée, à savoir sa mère. Et pour pouvoir s'approcher de la croix, il ne faut pas simplement passer par la très sainte Vierge Marie, il faut aussi se dépouiller de sa volonté propre, sinon on ne peut pas approcher de la croix. On n'approche pas de la croix comme on veut. De la même façon que On n'approche pas de la Sainte Communion comme on veut. Pourquoi? Parce que la Sainte Messe, c'est quoi? C'est le renouvellement de ce sacrifice de la croix. De la même façon qu'on ne peut pas approcher de la croix comme on le désire, si on n'a pas l'âme préparée à s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, de la même façon, on ne s'approche pas de la messe, on ne s'approche pas de la Sainte Communion, sans avoir, surtout pour la Sainte Communion, l'âme en état de grâce. Il est dit dans l'histoire que lorsque l'empereur Héraclius, c'était en l'an 629, l'empereur Héraclius avait battu le roi des Perses qui s'appelait Khosroès. Et ce Khosroès, 14 ans auparavant, vers 615 donc, s'était emparé de la ville de Jérusalem et avait emporté la relique de la Sainte Croix, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette croix de notre Seigneur Jésus-Christ avait été retrouvée, comme vous le savez sans doute, par la mère de l'empereur Constantin, Sainte Hélène. Elle l'avait retrouvée en 335. Donc, Khosroès, en 615, va s'emparer de cette croix. Et Khosroès ne va pas détruire cette croix. Il savait la valeur de cette croix pour les chrétiens et sans doute voulait-il la monnayer. Et peut-être aussi un peu de respect, même pour un païen, pour cette croix, parce qu'il connaissait l'histoire de cette croix. Et donc, Héraclius, donc, en 629, a récupéré cette croix. Il rentrait à Jérusalem, il voulut rapporter la croix en grande pompe au calvaire. Tout fier, tout content d'avoir récupéré la croix, entouré de toute la ville de Jérusalem, il s'avançait, donc, tout chargé d'or et de pierreries, portant la croix sur ses épaules. Lorsque soudain, arrivé à la porte de la ville, il fallait quitter la ville de Jérusalem pour franchir les quelques centaines de mètres qui séparaient la ville de Jérusalem du lieu du crâne, de Golgotha, où était la croix, où devait être la croix. Donc arrivé à la porte de la ville qui mène au calvaire, il se sentit arrêté par une force invincible et dans l'impossibilité de continuer sa route, dit l'histoire de l'Église. Les témoins de ce spectacle, Zacharie, évêque de Jérusalem, lui dit alors: Prince, avec ces ornements, vous êtes bien loin d'imiter la pauvreté de notre Seigneur Jésus-Christ et l'humilité avec laquelle il a porté sa croix. Héraclius comprit. Il eut suffisamment d'humilité pour se dépouiller de ses somptueux ornements et détachant ses chaussures, jetant sur ses épaules un vulgaire manteau, il prit la croix et cette fois-ci, il put la porter sans problème jusqu'au calvaire. Cela nous montre et nous fait comprendre, bien chers frères, qu'il faut se dépouiller avant de pouvoir arriver au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut se dépouiller de sa volonté propre. Il faut surtout se dépouiller de ses péchés. Quelqu'un qui est chargé de ses péchés doit obtenir le pardon de ses péchés avant de pouvoir s'approcher de la croix. Parce que s'il est plein de péchés, il a en quelque sorte un obstacle dans son âme qui l'empêche de posséder la croix. C'est pour cela qu'au pied de la croix, au pied du calvaire, notre Seigneur Jésus-Christ a placé sa mère, notre Sainte Vierge Marie, Notre-Dame des Sept Douleurs, qu'on fête donc le 15 septembre. Et cette fête nous rappelle que notre Sainte Vierge Marie est là pour nous aider à nous dépouiller. Quand elle voit quelqu'un qui prétend monter au calvaire pour saisir la croix et l'embrasser, et qui est recouvert de tous les ornements du monde, c'est-à-dire des pompes et de l'or et des pierreries du monde, c'est-à-dire recouvert de l'orgueil, recouvert de tous les péchés du monde, la liberté, l'égalité, la fraternité, tous ces faux principes, les honneurs, l'amour des honneurs, l'orgueil, l'amour de l'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? La Sainte Vierge Marie va reprendre ces paroles de Zacharie, l'évêque de Jérusalem, à l'empereur Héraclius, en nous disant: « Avec ces ornements, vous êtes bien loin, mon fils, d'imiter la pauvreté de Jésus-Christ et l'humilité avec laquelle il a porté sa croix. Si vous voulez atteindre la croix de mon divin fils, vous pourriez peut-être commencer d'abord par vous dépouiller de cet orgueil, vous dépouiller de ces honneurs, vous dépouiller de cet argent. Parce que sinon, vous serez paralysé en quelque sorte par l'amour du monde, et cet amour du monde vous interdira, vous empêchera de posséder la croix. Et la Très Sainte Vierge Marie va nous aider à nous dépouiller, et à ce moment-là, elle nous mène à la croix pour que nous puissions non seulement participer aux douleurs de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, mais participer aussi aux douleurs de Notre-Dame. Vous savez que traditionnellement, on associe la Très Sainte Vierge Marie avec la passion de notre Seigneur, parce qu'elle est rédemptrice, co-rédemptrice du genre humain, elle est médiatrice de toute grâce. On dit qu'à chaque fois que notre Seigneur Jésus-Christ a reçu un coup pendant sa passion, le coup est d'abord passé par le cœur immaculé de Marie. Quand le glaive, la lance, a percé le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, avant de percer le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, la lance a aussi percé le cœur immaculé de Marie. Alors, puisque la Très Sainte Vierge Marie est médiatrice de toute grâce, elle est co-rédemptrice du genre humain, c'est-à-dire qu'elle est la personne par laquelle toutes les grâces sont données au monde. Les grâces ne viennent pas à la Très Sainte Vierge Marie, mais elles viennent par elle. Et donc, il nous faut avoir cette dévotion envers Notre-Dame, justement, pour pouvoir atteindre notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un qui n'a pas de dévotion envers Notre-Dame, la Mère de Dieu, ne peut pas atteindre la croix, ne peut pas atteindre notre Seigneur Jésus-Christ, parce que pour passer, arriver au pied de la croix, il faut passer par Notre-Dame. Notre-Dame est au pied de la croix. Et il faut nous associer à ses douleurs. Et Dieu sait si elle a souffert pendant cette passion, parce que justement, elle a voulu s'associer aux douleurs de son Fils. Traditionnellement, encore une fois, on attribue cette douleur à Notre-Dame. La première, c'est la prophétie de Siméon, un glaive vous transpercera l'âme, et cet enfant sera un signe de contradiction pour la résurrection, pour la chute de beaucoup en Israël. La deuxième douleur, c'est la fuite en Égypte, dans le froid, le vent, dans la longueur du chemin. Il faut tout quitter et il faut déjà souffrir pour aller protéger l'enfant, l'amener en Égypte. Pour les païens, c'est des gens qui adoraient le serpent, qui adoraient les animaux, qui adoraient le soleil, aller amener le Fils de Dieu dans un univers de païens pour empêcher le roi Hérode de le tuer. Puis après le retour en Palestine, c'est la perte de notre Seigneur Jésus-Christ au temple. Pendant 3 jours, Saint Joseph et la Très Sainte Vierge Marie vont chercher l'enfant et ils ne vont le retrouver qu'après bien des recherches, au bout de 3 jours, ils ne comprirent pas. Mon enfant, où étiez-vous? Ne savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père? Et Marie gardait toutes ces choses, les méditant en son cœur, parce qu'elle n'a pas compris la réponse de notre Seigneur. La quatrième douleur, c'est justement pendant la passion, la rencontre, lorsqu'elle est avec Saint Jean. La rencontre de notre Seigneur qui porte sa croix. Notre Seigneur Jésus-Christ a été condamné à mort, il a commencé à monter les rampes qui montent au calvaire, et là, dans une encoignure, la Très Sainte Vierge Marie voit son fils, le plus beau des enfants des hommes, couvert de crachats, couvert de poussière, couvert des coups de la passion. Et la tradition nous dit que elle a été tellement choquée, tellement, elle a tellement souffert par cette vision, qu'à cet endroit, elle s'est évanouie. Et les croisés auraient construit à cet emplacement exact une petite chapelle qu'on appelle justement la chapelle du spasme, pour rappeler que la Très Sainte Vierge Marie s'est évanouie à ce moment-là dans les bras de Saint Jean qui l'a ranimée. Puis la cinquième douleur de Notre-Dame, c'est la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Après avoir prononcé ces 7 dernières paroles, il va pousser un grand cri et rendre l'âme. Notre Sainte Vierge Marie a vu tout ça. Elle a souffert comme notre Seigneur. Enfin, la sixième douleur, le percement par la lance et la descente de la croix, c'est la Pietà, la Vierge douloureuse assise au pied du calvaire qui reçoit le corps sanglant de son divin Fils. Enfin, l'ensevelissement est aussi là pour amener le corps de son divin Fils au lieu où il va reposer pendant 3 jours jusqu'à la résurrection de la veille, le jour de Pâques. Alors, sachons, mes bien chers frères, sachons utiliser cette dévotion à la Sainte Vierge Marie pour nous approcher de la croix et pour nous approcher de la messe. Nous approcher de la messe parce que la messe, c'est la croix. La messe est le renouvellement non sanglant du calvaire. C'est dans le sacrifice de la messe que nous retrouvons la grandeur incroyable, la largeur, que nous comprenons la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ pour nous. C'est dans toute lettre, dans l'épître d'aujourd'hui qui est tirée de Saint Paul aux Éphésiens. Voilà ce que dit Saint Paul. Je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, pour qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, qu'il fasse que le Christ habite par la foi dans vos cœurs, afin qu'étant enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur et la hauteur et la profondeur et connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors, mes bien chers frères, méditons sur l'importance justement de la messe. L'évangile du jour nous parle du sabbat. Notre Seigneur Jésus-Christ parle aux pharisiens et leur dit: qui de vous, si son âne ou son bœuf, c'est dans l'évangile de Saint-Luc au chapitre 14, qui de vous, si son âne ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retire pas aussitôt le jour même du sabbat? Alors, ce jour du sabbat, c'est le dimanche, dies Dominici, le jour du Seigneur. Et nous devons nous rappeler, mes bien chers frères, qu'il y a un troisième commandement qui nous oblige à sanctifier le jour du Seigneur. Sanctifier le jour du Seigneur, que nous ayons une messe ou non, que nous puissions assister à cette messe ou que nous ne puissions pas y assister parce que nous n'avons pas de messe non unicum dans un rayon relativement court et qu'il ne nous est pas possible d'assister à la messe. Il y a des gens qui peuvent parler à la messe plus que 2 ou 3 fois par an. Eh bien, ils sont dispensés de messe, bien sûr. Si la messe est centaines et centaines de kilomètres, parfois ils ne peuvent pas y aller. Mais ils ne sont pas dispensés de sanctifier le jour du Seigneur. Donc, je voudrais vous rappeler, mes bien chers frères, rapidement, profitant de ce sermon, pour vous rappeler, en suivant le catéchisme, donc quelles sont les obligations pour sanctifier le jour du Seigneur? De même que nous avons l'obligation de nourrir notre corps, nous avons l'obligation de nourrir notre âme. Et un jour tout particulier pendant lequel nous devons nourrir notre âme, c'est le jour du Seigneur. Et donc il faut, donc en ce jour du Seigneur, que nous ayons une messe ou non, nous sommes obligés de passer un minimum de temps pour nourrir notre âme. Par exemple, si nous n'avons pas la Sainte Messe, dans un rayon proche, encore une fois, nous ne pouvons pas assister à la Sainte Messe pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous devons quand même passer le temps d'une messe basse. Ce que demande la tradition, au moins j'irai une demi-heure, 3 quarts d'heure, à lire les textes de la messe dans notre missel. Et même si nous pouvons assister à la messe, la sainte messe n'est pas suffisante, mes bien chers frères. Ce n'est pas parce que j'ai assisté à la sainte messe le dimanche que j'ai rempli mes obligations, il y a plus que cela. Il nous faut, dans toute la mesure du possible, préparer cette messe en lisant, par exemple, en avance, samedi soir ou le dimanche matin avant la sainte messe, lire les textes, au moins les textes de l'épître et de l'évangile pour nous préparer à la sainte messe. Et après la Sainte Messe, de prendre un temps minimal pour faire une bonne action de grâce et remercier notre Seigneur Jésus-Christ si nous avons eu la grâce de communier. Le catéchisme nous demande aussi de nous abstenir des œuvres serviles. Il y a beaucoup de confusion dans ce domaine. C'est un point du catéchisme qui trouble pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens pensent, beaucoup de catholiques pensent que les œuvres serviles sont les œuvres qui nous font gagner de l'argent. C'est absolument faux. Les œuvres serviles, le mot servile vient du mot servus au latin, qui veut dire l'esclave. Les œuvres serviles sont les œuvres corporelles qui étaient faites avant par les esclaves. Donc nous devons éviter les œuvres serviles, sauf cas de force majeure. Il y a des cas où une personne est obligée faire une œuvre servile le dimanche parce que les circonstances sont telles qu'il est obligé de le faire. Imaginez par exemple que vous avez le feu dans votre maison, bon, vous êtes bien obligé de faire des œuvres serviles pour essayer d'éteindre le feu. C'est absolument évident. Et donc, il faut consacrer ce jour au bon Dieu, au moins dans la grande partie de la journée, pour la plus grande partie de la journée. Il nous faut aussi considérer et comprendre que le dimanche nous est donné pour, pas simplement pour sanctifier notre âme, pour nourrir notre âme, mais aussi pour reposer notre âme et notre corps. Et donc, il y a une nourriture aussi qui doit être donnée sur ce plan-là, pour la vie de famille, c'est-à-dire le dimanche est aussi un jour où il nous faut privilégier la vie de famille, après la Sainte Messe bien sûr, privilégier la vie de famille, privilégier une saine détente pour la famille. Souvent le papa par exemple est loin de la famille toute la semaine à cause de son travail et il rentre tard le soir, les petits sont déjà couchés, il n'a aucun contact avec ses enfants. Il a le devoir le dimanche au moins de passer du temps avec son épouse, avec ses enfants, pour ressouder les liens entre les parents et les enfants. Il faut aussi le dimanche impérativement nourrir aussi son intelligence. Il faut ce jour-là essayer de faire une lecture pieuse, une lecture utile pour notre âme. Par exemple, de relire un petit peu le catéchisme de Saint-Félix, le catéchisme du Concile de Trente, relire un chapitre, reprendre le catéchisme de persévérance de Mgr Gaume, par exemple. Bon, si vous avez internet, de réécouter certains des catéchismes que j'ai placés sur le site d'Anne Marie. Et pour pouvoir travailler, connaître son catéchisme, on a l'obligation d'utiliser notre intelligence, de sanctifier notre intelligence et de nourrir notre intelligence avec des choses qui sont bonnes. Notre intelligence est déjà contaminée toute la semaine par des horreurs. Il faut au moins que le dimanche, on s'occupe de purifier cette intelligence. Alors, nous trouverons la véritable humilité. Rappelons-nous ce que nous dit notre Seigneur en fin d'évangile d'aujourd'hui. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera exalté. Alors, si je sanctifie le jour du Seigneur de cette façon, je pourrais, si j'ai la messe, je pourrais communier si je suis en état de grâce. Rappelons-nous rapidement aussi, je voudrais réexpliquer, rappeler les choses que j'espère vous connaissez déjà, mais qu'il faut rappeler, nous rappeler les obligations, plus exactement les conditions pour pouvoir communier. La première condition, évidemment, c'est l'état de grâce. Malheur à celui qui commet un tas de péchés mortels, un sacrilège épouvantable. L'état de grâce est donc nécessaire, indispensable pour pouvoir communier. Deuxièmement, dit Saint-Pédis, intention droite, savoir ce qu'on fait. Si j'ai passé ma messe à compter les mouches au plafond, je ne suis peut-être pas tout à fait prêt à recevoir le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, d'avoir suivi la loi du jeûne eucharistique. Rappelons-nous cette loi. L'Église vous demande, pendant 3 heures, avant la communion, pour les fidèles, pour nous prêtres, c'est avant le début de la messe, 3 heures sans manger de nourriture solide, sans boire d'alcool, et 1 heure sans avoir pris de liquide, l'eau ne rompt pas le jeûne. Par exemple, vous avez le droit, c'est nécessaire, si vous avez une longue route à faire, de prendre un café ou un jus d'orange le dimanche matin avant d'aller à la messe, du moment où vous avez 1 heure encore entre le moment où vous avez pris votre boisson et le moment de la communion. Voyez, mes bien chers frères, utilisons ces conseils de notre Seigneur Jésus-Christ, ces conseils du catéchisme, ces conseils du prêtre catholique, justement pour nous aider à comprendre la grandeur de la messe. Et n'oublions pas que pour comprendre la grandeur de la messe, encore une fois, revenons au sujet que j'ai abordé au début de ce sermon, pour comprendre la grandeur de la messe, il faut comprendre la grandeur de 2 choses, la grandeur de la croix et la grandeur de la dévotion à la Sainte Vierge Marie. On dit, et c'est vrai, que les deux grandes preuves d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ nous a données, la première c'est sa mort sur la croix, et la deuxième c'est de nous avoir donné sa mère. Les 2 cadeaux extraordinaires, la croix et la très sainte Vierge Marie. Utilisons ces 2 choses. Et puisque, encore une fois, la croix a pour nous une certaine répulsion, est difficile pour nous d'accepter, eh bien passons par Notre-Dame. Ayons cette dévotion à la très sainte Vierge Marie. Prions notre chapelet tous les jours en famille pour que nous puissions justement, avec la grâce du bon Dieu, préparer notre âme, utiliser la croix pour monter vers le bon Dieu et nous préparer un jour une place au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.